Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous demander si vous avez l'intention de faire une émission spéciale sur les 180 entreprises françaises, leurs racailles et leurs voyous qui ont collaboré avec le régime de Saddam Hussein. Je vous remercie. Au revoir.
C'était pour remercier d'avoir fait un reportage sur Grigny. Je suis inscrite à la grande bande, enfin professeur des écoles depuis 5 ans maintenant. Enfin, j'ai eu une année de formation. Je travaille avec des CM2 dans l'école du Buffle. Et ça fait du bien d'entendre un peu autre chose sur la radio que ces racailles qui mettent le feu, etc. Je m'occupe de préadolescents et c'est vrai que c'est pas des racailles, c'est les flûtures qui sont insultés par Sarkozy, mais c'est pas les racailles, c'est des gamins qui sont en perte complète de repères. Les parents, ils trouvent pas de boulot, ou s'ils trouvent des boulots, ils font les 3-8, donc ils sont pas là le soir pour voir leurs gamins, pour suivre leurs devoirs, ils sont en fin d'entretien, etc. Et j'ai eu une classe très dure il y a 2 ans, et j'avais 70% de parents qui étaient chômeurs ou sans activité, parce que quand on en a marre de marquer chômeur, on met sans activité. Donc, on est là-bas depuis longtemps, on espère toujours que notre école va pas brûler, mais bon, si elle brûle, c'est qu'il y a des raisons. Et puis voilà. Au revoir.
Voilà, bonjour Daniel. Ce matin, j'ai pris mon sécateur, je suis allée dans mon jardin et puis j'ai cueilli les dernières roses. Mon avis, c'est les plus belles, les plus parfumées. J'en ai fait un bouquet, un beau bouquet avec des roses, des branches et puis des baies rouges. Bon, d'accord, ça a l'air d'être très loin des problèmes actuels, mais c'est pas si sûr. Alors cet après-midi, je l'ai porté ce bouquet là-haut, tout là-haut sur le plateau à la Faux. La Faux, c'est juste à côté du chemin des Dames. Et puis, je l'ai mis sur une tombe, un peu au hasard. C'était celle d'un instit de 25 ans, qui est mort grâce au bon général Nivelle. Et puis après, je suis passée à Cerny. C'est un de ces immenses cimetières, avec d'un côté les Allemands, de l'autre côté les Français. Et dans le cimetière français, c'est plein de tombes musulmanes, hein, des petits gars du Sénégal, d'Algérie. On était bien contents de les avoir à ce moment-là. Alors moi j'en ai assez, vraiment assez, d'entendre sans cesse parler de jeunes issus de l'immigration, alors que leurs arrière-grands-pères, ils sont là, en France, pour toujours. Voilà. Il serait peut-être grand temps de leur donner à ces descendants des tirailleurs sénégalais, des spahis ou que sais-je encore, leur place en France. Ils sont chez eux ici, et merde à Sarkozy. Voilà.
Oui, bonjour Daniel, c'est Thierry de Limoges. Voilà, c'est un salarié du Baron qui t'appelle, un salarié de la société Legrand. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on a été racheté par le Baron Seyer et par un fonds d'investissement américain, KKR. Ils ont fait le plus gros LBO fait en France au moment où ça a été fait en 2001. Ils ont racheté une entreprise de 7 milliards avec uniquement 4 milliards de fonds propres. Le reste, c'est l'entreprise qui s'endette. Alors, si tu t'intéresses au LBO et à la manière dont ils sont arrivés sous forme de junk bonds et transformés en LBO, tu peux nous appeler parce que nous, on est au courant. Et voilà, je t'envoie un message du piquet de grève et c'est tous les salariés qui sont en grève qui vont t'envoyer un signe. Allez les gars!
Bah oui, c'est formidable ce message. Sauf que nous, LBO, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je suppose qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans notre situation, dans notre cas, et qui ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Et ça tombe très très bien parce qu'aujourd'hui, on va découvrir tout ça, tout ce monde positif, ce monde des gagnants. Il y en a marre de ces histoires de banlieue, de perdants, de choses qui vont pas du tout. On a décidé à partir d'aujourd'hui de donner une image positive de notre pays, positive de notre pays. On va montrer ce qui va bien avec François Ruffin et Jean-Luc Porquet. Jean-Luc Porquet, l'auteur d'un livre qui sort aux éditions Michalon qui s'appelle « Que les gros salaires baissent la tête ». On va voir de quoi il s'agit. Peut-être que chemin faisant, on comprendra ce que ça veut dire LBO. Auparavant, on va appeler la Tunisie. C'est tout à fait autre chose. Vous savez peut-être que vendredi, notre confrère, le journaliste Christophe Boltanski de Libération a été agressé à Tunis. Vous savez peut-être que le 16 novembre, c'est-à-dire mercredi, va s'ouvrir à Tunis le sommet mondial de la société de l'information. Dans ce pays qui continue d'être, on peut dire, dominé d'une manière ubuesque par un certain Ben Ali, élu pour la quatrième fois avec 99,5% des voix. On sait tout de ce qui se passe dans ce pays. Et ça continue avec toujours le soutien du gouvernement français, avec le soutien d'un nombre de personnalités françaises qui soutient ce régime qui opprime, qui continue d'opprimer le peuple tunisien, alors même que va s'ouvrir ce sommet mondial à l'initiative des Nations Unies. Donc on a appelé à Tunis notre amie l'avocate Radia Nasraoui. Radia ?
Oui.
Alors Radia Nasraoui, expliquez-moi un petit peu la situation. On a appris que notre confrère Christophe Boltanski, journaliste à Libération, a été agressé vendredi à Tunis. Ça fait aujourd'hui la une du quotidien Libération. Et il y a une grève de la faim depuis le 18 octobre. 7 personnalités sont en grève de la faim à Tunis pourquoi ? Pour le respect des libertés, pour la libération des prisonniers politiques.
Justement pour exiger le respect de la liberté d'expression, le respect de la liberté de créer des organisations, d'appartenir à des partis d'opposition, en un mot, la liberté d'organisation. Et puis, les grévistes exigent aussi la libération de tous les prisonniers politiques qui se comptent par centaines en Tunisie. Nous les soutenons. Nous sommes très nombreux à appartenir au comité de soutien. Il y a quasiment toutes les personnalités politiques tunisiennes, toutes les personnalités du monde associatif qui appartiennent au comité de soutien. Et puis il y a partout en Tunisie des comités régionaux de soutien de ce mouvement qu'on appelle le mouvement du 18 octobre.
Ben alors, 18 octobre, on est le 15 novembre. C'est très long, ça, c'est une grève de la faim très longue.
Elle est longue, ils ont été obligés de recourir à la grève, ils mettent en péril leur santé, leur vie, mais ils sont déterminés et ils veulent continuer. Les médecins disent maintenant que c'est une période qui commence à être critique pour eux. Il y a d'ailleurs un gréviste qui n'a pas pu continuer pour des raisons de santé, parce que sa vie était vraiment en danger, et donc tous les amis lui ont demandé d'arrêter. Les autres sont vraiment très affaiblis, ils ont des problèmes de santé assez sérieux, mais ils veulent quand même continuer, parce que la situation est devenue vraiment intenable en Tunisie.
Alors ce qui semble absolument ubuesque et, comme vous dites, intenable, c'est que va s'ouvrir le SMSI, le Sommet Mondial de la Société de l'Information, qui est organisé à Tunis par les Nations Unies.
Ah ben oui, nous sommes tous scandalisés et nous avons dit depuis longtemps que c'est une honte que les Nations Unies organisent un sommet de la Société de l'Information dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, dans un pays où plusieurs journaux ont disparu, dans un pays où des directeurs de journaux sont en prison ou en exil ou sont privés de tous leurs droits, et dans un pays où on peut passer des années de prison pour avoir consulté un site sur Internet, dans un pays où on ne peut plus lire nos emails. Je ne peux plus lire mes emails, on ne peut plus communiquer. Tous les téléphones sont coupés. La preuve, vous m'appelez sur un autre numéro. Le mien n'est plus joignable de l'étranger. Je trouve que c'est vraiment honteux pour les Nations Unies et que, de toutes les façons, actuellement, la demande des militants des droits de l'homme en Tunisie, c'est qu'au moins les participants qui viennent ici participer à ce sommet mondial et qui sont là au moment où on agresse les gens dans les rues de Tunis, au moment où on agresse le président de la Ligue, au moment où on agresse les militantes du mouvement des droits de l'homme en Tunisie, et au moment où on agresse même les journalistes étrangers. Ce matin même, ils ont agressé les journalistes de la radio-télévision belge francophone. L'autre jour, ils ont agressé Christophe Boltanski. Je l'ai vu juste après l'agression et j'ai pu constater à quel point c'était sauvage. Il avait des traces partout et il a même reçu un coup de couteau. Alors, si dans notre pays, la police commence à attaquer les journalistes étrangers, à un moment où toute la presse est mobilisée, à un moment où tous les journalistes sont en train d'arriver pour couvrir ce sommet mondial, je crois que c'est très significatif. Et les gens peuvent imaginer un peu dans quelles conditions nous vivons et quels risques nous courons ici.
Mais est-ce que les médias réagissent en Tunisie? Est-ce que les journalistes réagissent en Tunisie?
Les journalistes tunisiens ne peuvent absolument pas écrire une information sur ce qui se passe en Tunisie.
Comment est-ce qu'on veut faire pour vous soutenir? Quel est le moyen pour vous soutenir ou pour ceux qui voudraient vous adresser un soutien quelconque?
Moi, j'ai envie de dire d'abord que si Ben Ali continue sa politique répressive et si au moment où le sommet mondial se tient en Tunisie, il continue sa politique policière, mais en plus, je peux dire que la situation des droits de l'homme s'est aggravée, qu'il y a plus d'agressions physiques, plus d'interdictions et tout. S'il continue cette politique-là, c'est parce qu'il a certainement des garanties du monde occidental. Et je ne parle pas de tous les occidentaux, mais Ben Ali est soutenu, et tout le monde le sait, par les Américains. Il est soutenu par Chirac. Il est soutenu par des gouvernements en Occident, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de continuer cette politique. Et d'ailleurs, ce que nous demandons uniquement à ces partis-là, c'est juste de ne plus le soutenir, de ne plus soutenir la dictature.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Jean-Luc Porquet, que les gros salaires baissent la tête. Flight number 2, arriving from
New York. Les grands patrons, eux, font leur beurre. La rémunération des 17 plus grands patrons français a augmenté de 36% en un an. Conclusion d'une enquête publiée hier par une société spécialisée dans les investissements. En tête du palmarès, Serge Tchuruk d'Alcatel, Lindsay Owen Jones de L'Oréal et Jean-Marie Messier de Vivendi. Serge Tchuruk, tenez-vous bien, touche 20 millions d'euros par an. Dit comme ça, c'est abstrait, alors on est dans les grosses sommes. Alors on va traduire, ça veut dire 55 000 euros par jour, si vous préférez, 360 000 francs par jour, 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 360 000 francs par jour.
Eh oui, c'est beaucoup, 360 000 francs par jour. Mais ce grand patron-là n'est pas le seul, ils sont quelques-uns, comme ça, en France, pas seulement en France, à gagner très très correctement leur vie, sans que cela nous émeuve outre mesure. C'est ça qui a étonné quand même Jean-Luc Porquet, qui est journaliste et qui publie ces jours-ci un bouquin tout à fait passionnant, Que les gros salaires baissent la tête, aux éditions Michel. De quoi s'agit-il? Ben, vous avez déjà compris comment, pourquoi ces messieurs, parce que c'est la plupart du temps des messieurs, peuvent gagner autant d'argent sans, encore une fois, que ça ne nous indigne plus que ça. On se dit, bof, après tout, c'est leur problème, grand bien leur fasse. C'est un autre monde, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner 360 000 francs par jour, 400 000 francs par jour? Il faut faire des calculs. Jean-René Fourtou, effectivement, gagne environ, 400 000 francs par jour. C'est des sommes, effectivement, astronomiques. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? On se dit, bon, bah après tout, ils gagnent cet argent, c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. Sauf que, eh bien, ces fabuleux enrichissements se font bel et bien au détriment des salariés, au détriment de l'emploi, au détriment de la main-d'œuvre dans les pays en développement où la plupart du temps ces messieurs délocalisent leurs activités. Parce qu'aujourd'hui, l'actionnaire a pris le pouvoir sur l'économie. Fini la vieille castagne entre syndicats et patronat. Le patron à l'ancienne qui négociait, qui finissait bon gré mal gré par partager les bénéfices et les avantages. Aujourd'hui, le patron n'a plus le pouvoir. La finance a pris le pouvoir sur l'industrie et sur toute la production et sur toute l'activité économique. Aujourd'hui, l'actionnaire exige 15% de revenus sur ses engagements, sur ses investissements, alors qu'on a une croissance de 2 à 3%. D'un côté, on veut 15% et de l'autre côté, là, la croissance est de 2 à 3%. Et donc, le PDG, ces PDG, ces messieurs, eh bien, sont bien obligés, oh, la mort dans l'âme, bien évidemment, de pressurer, de licencier et de délocaliser. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne les empêche pas d'être devenus, au-delà de l'indignation tout à fait passagère et tout à fait formelle, bel et bien des figures du progrès, de l'inégalité. L'idéologie inégalitaire ne cesse de progresser depuis 20 ans, 30 ans, et ils en sont les figures emblématiques. Voilà pourquoi nous nous intéressons, pour changer un peu, à ces Français positifs. C'est jusqu'à 18h dans la Bastille-Gissoux.
Il y en a marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Il y en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Il y en a nanana. Il y en a marre des pauvres. Oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres. Il y en a nanana. Il y en a marre des pauvres. Il y en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Heureusement les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Il y en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Tu vois,
ouais. Monsieur Porquier, on s'est donné rendez-vous devant la tour Total, on s'est donné rendez-vous au quartier de la Défense, qui est le quartier des affaires. Là, on est entouré de hautes tours, donc il y a la tour de la Société Générale, il y a la tour de Aventis, il y a la tour de Arcelor, il y a la plus haute de toutes ces tours qui serait, paraît-il, la deuxième plus haute tour de France, qui est celle de Total.
Areva aussi, Areva est là. Juste à côté de Total, il y a Areva, donc les centrales nucléaires, etc.
Vous êtes actionnaire de Total?
J'ai été actionnaire brièvement, j'ai acheté une action au début de l'année pour pouvoir être invité à l'Assemblée Générale de Total. Ça coûte 178 euros l'action. Et puis je l'ai revendu 3 mois plus tard. Entre temps, j'ai eu le temps de faire un petit bénéfice, je crois, de 1 ou 2 euros, mais comme la banque prend une commission quand on achète une commission quand on revend, j'ai dû perdre 30 euros dans l'histoire.
Alors pourquoi vous avez acheté des actions chez Total? C'est comme ça qu'on investit au Canard Enchaîné?
Donc je rappelle que j'ai acheté une action et pas des actions. C'est parce que je voulais voir comment ça se passait, quoi, comment on était invité, à quoi avait droit l'actionnaire, quelle était l'ambiance de cette Assemblée Générale, qui est une espèce de grand messe qui a lieu chaque année en février, mars, avril, dans les grands groupes du CAC 40.
Qu'est-ce qu'on vote pour l'instant? Quelles sont les résolutions que vous avez eu à voter, que vous avez approuvées des deux bras?
D'abord, j'ai rien voté, parce que vraiment, surtout avec un petit boîtier électronique à la con, c'est vraiment n'importe quoi. En plus, la plupart des votes sont faits d'avance, puisque les 2000 actionnaires qui sont là représente epsilon par rapport à ce que possèdent les vrais grands actionnaires, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et donc les jeux sont faits d'avance. Et c'est juste une sorte de sorte de cérémonie pour faire semblant qu'il y ait de la démocratie actionnariale, quoi. Mais alors, ça, c'est bidon.
Mais là, donc, vous n'avez pas eu à voter la rémunération de M. Desmarais?
Et non, j'en suis d'ailleurs triste parce que ce garçon mérite une augmentation. D'ailleurs, il la réclame et il se plaint assez souvent que du fait qu'il a pas assez de, il est mal payé en comparaison de ses homologues, comme on dit.
Monsieur Desmarais dit ça?
Bah oui, parce que Total, c'est la quatrième grande multinationale du pétrole. Et par exemple, Esso, c'est américain et le patron d'Esso gagne beaucoup plus que Monsieur Desmarais, qui du coup n'est pas content. Desmarais, il gagne. Alors là aussi, je reprends mes fiches parce que c'est des chiffres qui veulent. 6,5 millions d'euros. En plus, il possède des actions de Total, parce que ça ne lui suffit pas d'avoir son salaire. Donc, il a 58 300 actions, ce qui fait 11 millions d'euros au cours d'aujourd'hui. Quoi. Voilà. Et donc, au lieu d'être imposé sur la fortune et de payer un impôt de 60% là-dessus, ben, il ne va plus payer que 25%, parce qu'il en avait besoin.
Ah d'accord, il a une petite réduction, un petit rabais. Ah, quoi.
Il a une grosse réduction, il va payer trois fois moins d'impôts sur ses actions.
Donc c'est M. Thierry Breton qui accorde un petit rabais à M. Desmarais.
Voilà, donc M. Thierry Breton, ancien PDG, qui comprend les problèmes, les gros problèmes d'argent de M. Desmarais.
Voilà, vous voyez, on a changé de banlieue. Là, c'est une banlieue aussi, là où nous nous trouvons, hein, c'est plutôt, c'est la défense, et la défense, eh ben, c'est ces fleurons de l'activité économique française, internationale, mondiale, et nous nous trouvons donc avec Jean-Luc Porquet, l'auteur de cet ouvrage, que les gros salaires baissent la tête, et avec François Ruffin. Donc, on est là, et sauf qu'évidemment, vous avez compris l'ironie et le côté de ces jeunes gens d'être un petit peu, de faire un petit peu dans la caricature, un petit peu dans l'excès. Évidemment, Total, ce n'est pas que les tours de la défense, c'est aussi, c'est des dizaines de milliers de salariés, et c'est aussi des usines, c'est aussi tout simplement des usines. Alors nous voilà à Grand-Quevilly, près de Rouen, une usine chimique Total, où nous rencontrons Monsieur Jean-Pierre Levaret, qui est un salarié de cette entreprise et depuis 32 ans, qui est aussi auteur, et à ses moments perdus, il écrit des livres, ce monsieur, dont l'un s'intitule « Putain d'usine ». Il a 32 ans d'ancienneté et il est à l'autre bout de l'entreprise.
Donc là, on se trouve à Grand-Quevilly, à côté de Rouen. On se trouve dans une usine Grande Paroisse qui appartient au groupe Total. Qu'est-ce qu'on aperçoit là, en fait, par la fenêtre?
Ce qu'on aperçoit par la fenêtre, là, ça, c'est un très vieux bâtiment. C'est pas un labo de recherche, mais on fait des essais encore, quoi. Pour les engrais, on fait encore de la recherche, quoi, dans l'usine, quoi. Et si on regarde un petit peu plus loin, par contre, on voit des ruines, parce qu'on a... On a carrément détruit un atelier qui est fermé. Et là, en ce moment, il y a un tiers de l'usine qui est en train de se faire détruire. Il y a un tiers de l'effectif qui a été supprimé lors du dernier plan dit social, quoi. Et ça fait 250 personnes qui ont été rayées des cadres, là.
Et il y reste combien de personnes aujourd'hui?
Et bah donc là, on est 420, quoi. Moi, quand je suis rentré il y a 30 ans, on était 2000. Ça laisse rêveur, quoi. Ça s'est fait petit à petit en différents plans. Je sais plus combien on a eu de plans, on les compte même plus. C'est quasiment une habitude. Là, le plan se termine et on se demande quand est-ce qu'on aura lieu le prochain. On en est là maintenant, c'est à penser au prochain, quoi.
Et pourtant, vous savez, malgré, vous avez l'air d'être un peu morose, là. Et pourtant, vous savez que vous êtes recordman.
Pourquoi? Non, je sais pas qu'on est recordman.
Vous savez pas que vous êtes recordman?
Non, là, comme ça, non, je sais pas.
Vous êtes recordman de tous les temps, même.
De tous les temps, ah bon?
Oui, le Total, c'est la société française qui a fait le plus gros profit l'an dernier de tous les temps.
Ah ok, oui.
Vous savez combien c'est?
Ah non, je sais pas.
C'est 9 milliards d'euros. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire encore plus plaisir. Bon, 9 milliards d'euros, c'était pas mal déjà. Oui. C'était le plus gros profit, hein, je vous l'ai dit, de tous les temps français. Mais cette année, vous allez faire mieux.
On va faire mieux, oui, à cause de la hausse du prix du pétrole.
Entre autres, mais je crois que déjà, sur le premier semestre, vous êtes déjà à 6 milliards d'euros sur le premier semestre. Donc normalement, vous devriez dépasser les 9 milliards. Ça vous rend heureux?
Je n'ose même pas penser à ça.
Mais est-ce que vous en tirez vous-même, puisque l'entreprise se porte quand même colossalement bien? Vous regardez votre fiche de paye de temps en temps?
Oui, quand même un peu, oui.
Et comment elle évolue, votre fiche de paye, depuis 10, 15 ans?
Ah bah, elle évolue pas. Elle est pareille. Ça évolue pas. Quand je fais ma déclaration d'impôt, je vois qu'il y a quelque chose qui a baissé, et en l'occurrence, c'est mon salaire.
Le salaire, il baisse?
Ah oui, un petit peu, mais il baisse, oui. Là, je peux le dire. Je gagne moins qu'il y a 2 ans, c'est sûr. Et là, il y a un mois, on est allé faire le bazar à l'UIC, c'est l'Union des industries chimiques, parce que, tel que c'est arrivé, dans la chimie, il y a 6 coefficients qui sont en dessous du SMIC.
Ah, il y a six coefficients, c'est-à-dire, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que ceux qui commencent en bas de l'échelle, le point de leur travail, enfin de leur coefficient, est inférieur au SMIC.
Vous, votre salaire, il est de combien?
J'ai 32 ans d'ancienneté, il est de 1800 euros, on va dire.
D'accord. Et vous savez, vous connaissez le salaire de votre PDG?
Oui, parce que justement, je viens de dire le canard enchaîné, j'ai lu le salaire annuel de 2004, ouais, qui est plus de 6 millions d'euros, je m'en rappelle plus la somme exacte, mais c'est dans ces eaux-là, 6 400 000, je crois.
Alors, si on convertit le salaire de monsieur Desmarais,
oui.
On va essayer de faire ça, soit votre salaire, par exemple.
Bah, allez-y.
Vous avez déjà calculé ça?
Non, pas du tout, non, allez-y.
Donc, on va le mettre.
Égal. Oh là là. Pff.
Donc, ça fait 296 fois votre salaire.
Ah bah, dis.
Donc, en un an de monsieur Desmarais, c'est comme si vous aviez travaillé depuis quand? Depuis 3 siècles, depuis 1705, donc depuis avant la Révolution française, fin de Louis XIV, quelque chose comme ça?
C'est terrible, ça. Vous pensez que c'est ça?
Ah oui,
c'est... Oh, y a.
Bah oui, c'est ça.
Eh ben, je préfère en rire. Mais qu'est-ce qu'il fait de tout son fric? Hein, ces gens-là, là. Quand on les pendra, qu'est-ce qu'ils font encore?
Alors, qu'est-ce qu'ils font de tout ce fric? Effectivement, c'est une question. La réponse qu'apporte Jean-Luc Porquet, l'auteur de ce bouquin, c'est qu'ils font du fric. Avec tout ce fric, il faut du fric. C'est leur truc. Et ça marche pas mal. Le salaire brut moyen des PDG du CAC 40 a été de 2,2 millions d'euros par an en 2004, auquel il faut ajouter les stock options. Les meilleurs experts estimant que celle-ci représente en général 70% du salaire total des PDG. On peut donc estimer que leur vrai salaire mensuel est de 611 000 euros, soit 339 fois le revenu mensuel maximum d'un ménage sur deux. Hein ? Vous pigez, je vous refais. On peut estimer que leur vrai salaire mensuel est de 611 000 euros, soit 339 fois le revenu mensuel maximum d'un ménage sur deux. C'est pas mal du tout. Alors évidemment, on peut se dire, c'est vrai quand même, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas ça d'un peu plus près, etc. Alors il y a ce progrès. Mais c'est un peu vague ce que j'ai dit tout à l'heure en notant le progrès de l'idéologie inégalitaire. Il y a aussi tout simplement que les médias, qui pourraient être le lieu du débat quand même sur ces questions, majoritairement sont contrôlés, même la quasi-totalité de la presse en France est contrôlée par ces messieurs-là, par Lagardère, par Dassault ou par Bouygues, et que tout ça évidemment n'est pas entièrement étranger à ce relatif silence ou à ces indignations sans suite. On retrouve Jean-Luc Porquet et François Ruffin.
On s'aperçoit qu'ils ont des salaires quand même extravagants, quoi.
Vous voulez donner les salaires de...
Oui, je donne, il y a juste un petit tableau, enfin je donne les 20 premiers. Par exemple, le premier, c'est Bernard Charles, un type complètement inconnu du grand public. Il est PDG de Dassault Systèmes, donc c'est une boîte qui appartient à la maison Dassault, et il a gagné 21 millions d'euros, oui. Voilà, 21 millions d'euros. Donc si je divise le salaire de Bernard Charles, je m'aperçois qu'il gagne en fait 1457 fois le SMIC. Alors,
1457 fois le SMIC. 1457 fois le SMIC. J'ai amené, comme petit truc, j'ai amené une frise de l'histoire de France. Je sais pas si ça peut nous être utile. Vous voyez, j'ai fait ça avec mes petites mains, j'ai scotché et tout. Donc on a la Gaule gallo-romaine, on a les francs mérovingiens, on a les carolingiens, on a Renaissance et Humanisme, puis ensuite on a les temps modernes. Là on est en 2005, si on prend moins 1457, grosso modo, c'est comme s'il touchait un SMIC depuis 496, depuis le baptême de Clovis à peu près, ou depuis la fin de l'Empire romain d'Occident.
Voilà, donc c'est comme si ce garçon avait beaucoup beaucoup travaillé quand même. Et du coup c'est un peu embêtant pour les SMICards d'aujourd'hui, parce que à mon avis ils n'arriveront pas à le rattraper. Et donc, moi, c'est un vrai problème, parce que je trouve que ça dévalorise la notion de travail, cette histoire. Le fait qu'un PDG gagne autant d'argent... Ah, voilà le
Perrier Café qui arrive.
Merci. Non, parce que souvent, c'est somme...
Je réglerai. Ouais, enfin, France Inter réglera, quoi.
Super. Parce que souvent, ces sommes sont gagnées par des gens qui passent leur temps à faire l'éloge du travail... qui montrent par leur salaire que c'est complètement déconnecté du travail, ce qu'ils gagnent. Ça n'a évidemment aucune... Merci. Ça n'a évidemment aucun rapport avec le travail qu'a fourni Desmarais. Par exemple, ce que gagne Desmarais chaque année, c'est 6 millions d'euros. Ça n'a pas de rapport. Il passe pas 500 fois plus de coups de fil que sa standardiste. Il n'est pas 300 fois plus intelligent que le moindre de ses ingénieurs. Il n'est pas 500 fois plus fort que le type qui trimballe les colis ou qui fabrique les gazoducs. Donc, ça n'a, il n'y a aucune relation avec le travail effectif.
Bonjour, les grévistes de Peugeot-Mulhouse ont reconduit ce matin leur mouvement d'occupation de la forge. Il faut dire que la publication par le canard enchaîné de la feuille d'impôt du PDG de Peugeot n'a pas contribué à ramener le calme sur le terrain social. Les revenus imposables de Jacques Calvé ont augmenté de près de 46% entre 86 et 88, alors que dans la même période, la rémunération des salariés progressait d'à peine 7%. Écoutez ce qu'en pense ce militant FO, interrogé par Olivier Vogel.
C'est honteux qu'un homme... ça puisse augmenter son propre salaire de 45% des années de 86 à 87, si je ne me trompe pas, d'après ce qu'elle a enchaîné. C'est honteux et qui demande l'austérité à des gens qui travaillent dur, qui ont à peine des taux de bas de 5000 francs à 5002. C'est une injure à la population qu'il dit mes ouvriers, mes états. Vraiment, c'est un homme qui se croit d'un autre temps, d'un autre siècle. C'est pas possible, on peut dire, avec ce qu'il nous donne. Moi, je dis, cet homme est à l'outrance encore de nous demander de nous serrer la ceinture. Ça provoque une colère qui vient du fond des tripes, parce que nous, pendant des années, on nous a demandé de nous serrer la ceinture pour redresser l'entreprise et redresser l'entreprise sur le dos de notre salaire, alors que nous avons à peine le moyen de pouvoir vivre et faire vivre nos familles. C'est pas possible. Il y a des copains, là, qui sont smigards. Moi-même, j'ai plus de 18 ans de boîte, j'ai fait 5080 taux de base.
En lutte, Yahoo, l'empire de 0,4%.
Au titre Carrefour gagne 0,21%.
Alors voilà, cette archive sur le scandale Calvé, appelons ça comme ça, date de 1989. Eh ouais, il y a 16 ans. Et puis depuis, il y a eu ce que vous entendez là, qui couvre ma voix, ce tapis continuel d'infos sur la bourse. C'est devenu une rumeur qui gagne, si bien que Calvez a été ça scandalisait ces syndicalistes. Mais bon, ça n'a pas empêché du tout. C'est un petit peu cause toujours. Pissez dans des violons tant que vous voulez. Ça continue. Les inégalités continuent de monter. Voilà une archive France Inter du 22 avril 2005.
Il faudrait plusieurs vies aux salariés de Radio France pour toucher ne serait-ce qu'un dixième de la somme qui va suivre. Daniel Bernard, ex-PDG de Carrefour, évincé pour résultats insuffisants, se retrouve pour se consoler avec une indemnité d'environ 38 millions d'euros. Une somme tellement énorme qu'elle déclenche l'indignation publique du député UMP Pascal Clément, qui se dit révolté, tout comme François Hollande, qui souhaite une loi pour interdire ce genre de retraite, qu'on appelle aussi les retraites chapeaux. Protestation également du côté de François Bayrou, président de l'UDF. On l'écoute au micro d'Alain Pagès.
Quel mérite vaut des sommes de cet ordre? eh bien, ces décisions-là, pour moi, elles creusent un fossé extrêmement dangereux entre l'entreprise et les Français. Alors, je sais bien qu'on peut pas prendre des lois pour l'interdire, mais il devrait y avoir un sentiment de responsabilité de la part de ceux qui font ce genre de choix. On est là dans des chèques d'une telle ampleur et qui ont tellement de zéros que les Français en sont forcément émus et fâchés, même s'ils ne le disent pas, et que ça donne de l'entreprise une image de capitalisme sans aucune éthique. Vraiment, n'importe quoi est possible.
En attendant, la somme colossale touchée par l'ex-PDG de Carrefour entretient la colère dans tout le réseau Carrefour, comme a pu le constater Nicole Guillard à Lyon.
Scandalisé, c'est le mot qui remonte de toutes parts. Nadine, déléguée force ouvrière au Carrefour de Givors, fait remarquer que les primes ne sont pas versées, que les négociations sur l'intéressement de 2004 achoppent, alors qu'un seul homme va tout empocher.
Quand on gagne les salaires qu'on gagne, on ne peut être que scandalisé. C'est vrai que ça peut apporter que de l'eau au moulin de ceux qui se sentent lésés, quoi. C'est peut-être qu'ils le méritent, hein, je dis pas le contraire, mais pas tant. Je vois pas qu'un seul homme ait pu faire autant de choses pour mériter autant d'argent. Si vous voulez savoir combien de temps je pourrais gagner autant de choses, il faut que je travaille, à mon avis, on a fait le calcul, 2403 ans.
Il y a 20 ans, quand Calvé, le PDG de Peugeot, avait fait scandale avec sa... Il gagnait 2,2 millions de francs par an. Bon.
2,2 millions de francs par an.
Voilà.
Mais attendez, ça ferait sourire n'importe quel PDG d'aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, bon, à l'époque déjà, les ouvriers de Peugeot disaient, mais concrètement, ça faisait quoi? Alors ils traduisaient, ça faisait 18 briques par mois. Et voilà, ils disaient, et dans la prise de leur calcul, ils disaient, voilà, Calvé gagne 30 fois plus que l'ouvrier de la Peugeot. Bon, qu'un PDG gagne 30 fois plus qu'un ouvrier, maintenant, voilà.
Maintenant, on serait dans le règne de la démocratie égalitaire. Ça, ce serait le retour de Babeuf, presque, qu'un PDG gagne seulement 30 fois plus. Si on propose ça à démarrer, si on propose ça à monsieur, comment il s'appelle, monsieur Charlet, si on propose ça à tous les PDG du CAC 40, si on propose ça à Daniel Bouton de la Société Générale, dont on est en face de la tour, enfin, ils vont rire si on leur dit qu'ils doivent gagner seulement 30 fois plus que leurs salariés.
Ils vont rire, et puis aussi, leurs pères vont se moquer d'eux, donc ils vont être mal vus, donc ils vont être ridicules, quoi. C'est un PDG qui gagne 30 fois plus que ses salariés, il est ridicule, quoi. Le minimum, c'est 99 fois... 99 est un minimum, quand même. En dessous de 99, on est nul.
Donc, on est passé de 30 fois le SMIC à 700, 1000 fois, 1500 fois le SMIC, ceci en à peine 20 ans.
Ouais, en 20 ans, ça a explosé.
Capitaine d'entreprise passionné, jeunes managers ambitieux, deal de l'année, fusion réussie, profit record, les BFM Awards. Venez récompenser les managers et les entreprises moteurs de l'économie en France. Les BFM Awards. BFM Awards jeune manager, BFM Awards entreprise familiale, BFM Awards entreprise CAC 40 et Grand Prix BFM. Les BFM Awards, première cérémonie et lauréat le 14 novembre prochain. Les BFM Awards, avec vous, tous les talents du business et de l'entreprise.
Café ou autre chose, un verre d'eau ou...
Et non, si c'était eux, la vraie racaille. Et si c'était eux, les vrais incendiaires. Qui sait, après tout, hein? Alors bon, les BFM Awards, ben c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si Marie ira. Je ne sais pas si elle ira, Marie. En tout cas, elle travaille chez Carrefour. Marie et François Ruffin l'a rencontré.
Bonjour.
Bonjour Marie. Vas-y, rentre.
Merci.
Bonjour.
Couchez.
Salut.
Ça va? Couchez.
Donc là, on vient de rentrer chez Marie, qui est caissière à Carrefour, et vous êtes en train de terminer en fait le repassage pour...
Voilà, pour préparer le sac de mon fils qui repart sur l'île pour la semaine.
Bon, elle est venue ici un peu, c'est bon, pour comparer votre statut avec celui de vos PDG successifs. Vous connaissez vos PDG successifs?
Pas vraiment. Monsieur Daniel Bernard, il a dû venir une fois ou deux au magasin. Moi, ça fait 9 ans que j'y suis. Et il a dû peut-être passer deux fois, c'est tout, quoi. Ça, c'est septembre. On est quoi? Oui, octobre, c'est bon. C'est la dernière, ça.
Donc ça, c'est votre fiche de paye de septembre.
De septembre.
Alors, en haut, il y a marqué Carrefour, Continent France, SNC. Et en bas, combien vous êtes payé?
Net, 837,63 €.
837,63 €, c'est pour un plein temps?
Non, non. Pour un 30 heures. 30 heures par semaine.
Et sur ces 839 euros de salaire, vous êtes en HLM et vous devez payer un loyer de 389 euros.
C'est ça. Avec une APL qui tourne autour de 37 euros.
Donc là, on va reprendre les calculs. Donc il faut qu'avec 485 euros, vous boucliez votre mois et vous aidez un peu votre fils en plus.
Oui, bien sûr, puisqu'il est étudiant, donc moi je pars pas en vacances. C'est un manque de moyens, oui. Oui, oui c'est clair, bien sûr. Bah, déjà, que d'être à temps partiel, c'est un handicap quand même.
Parce que c'est du temps partiel, vous l'avez pas choisi d'être à 30 heures.
Non, non, du tout, non, non. C'était imposé d'office. J'étais engagée comme ça. C'était pas du tout 35 heures, c'était 30 heures.
Ah, c'est du temps partiel contraint alors.
Ouais, ouais. Oui, c'est ça.
Et à côté de ça, vous avez une prime d'ancienneté?
Prime d'ancienneté, pas du tout. Ça n'existe pas chez Carrefour. À partir de la 8e année de présence, on a un jour de CP supplémentaire.
Un jour de?
CP supplémentaire.
C'est quoi CP?
De congé payé.
Ah d'accord. Mmh. À partir de combien d'années?
8. 8e année.
Ah, le cadeau après 8 ans de présence voilà. Chez Carrefour, c'est un jour de congé, c'est le lundi de Pentecôte, quoi.
Oui, si on veut, c'est ça.
Et est-ce que vous avez une participation au résultat? Est-ce que vous touchez de l'argent quand le cours en bourse monte, quand il y a des profits chez Carrefour, quand ça fait du chiffre d'affaires?
On n'a pas eu d'intéressement, sauf 30 euros, quelque chose comme ça, puisqu'il a fallu... c'était l'année où Monsieur Daniel Bernard est parti... en touchant les 39 millions.
Donc ce printemps. Voilà. Ce printemps, quand M. Daniel Bernard est parti avec ces 39 millions, voilà. vous avez touché 30 euros, donc 200 francs de prime d'intéressement.
Oui. Voilà, tout à fait, quelque chose comme ça, oui. En fin d'année aussi, on avait toujours un petit cadeau supplémentaire de la part du patron, un petit cadeau. L'année dernière, on avait eu une boîte de chocolat à, je sais pas, 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc, on a trouvé ça un petit peu dur, quoi. Bon, on a fait un jour de grève pour ça. Après une discussion avec la direction, on a obtenu un bon d'achat de 15 euros. Et puis, demander aussi le paiement des heures de grève, mais ça a été refusé. Et je puis demander aussi une augmentation de salaire, mais ça, bon, ça marche pas, quoi.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Quelque chose que vous racontez également dans votre livre, c'est que, bon, certes, les PDG ont des revenus qui sont acceptables. Mais surtout, il y a des avantages annexes à être PDG. Il y a des avantages annexes à être salarié de la Radio France. On a la cantine, on a 30% de réduction sur les produits Radio France. Quels sont les avantages qu'on a quand on est PDG?
Un bon PDG, maintenant, demande un Golden Halo.
Un Golden Halo.
Donc c'est de la même manière qu'il y a le Golden Parachute, le parachute en or, il y a le bonjour en or, le bienvenue en or. C'est-à-dire que le gars arrive et on lui donne d'entrée de jeu 1 ou 2 millions d'euros pour montrer que voilà, on est content qu'il soit là.
Alors, il n'y a pas que le Golden Goodbye aussi.
Oui, donc le Golden Parachute, là. Donc là, c'est ben, voilà, quand on part, ben, voilà, on part avec généralement 2 ou 3 ans de salaire, quoi. Et là-dessus, il faut ajouter la retraite chapeau. Daniel Bernard, c'était un peu ça. Si...
Bon, il y a le Golden Halo, donc, le bonjour en or, il y a le Golden Parachute, le parachute en or, il y a des stocks options, et il y a également une assurance, c'est ça?
Le principe de l'assurance, c'est que, quoi qu'ils fassent, ils en sont jamais de leur poche. Comme Messier peut couler sa boîte, peut couler Vivendi, Crédit Lyonnais peut faire faillite, jamais ils n'en sont de leur poche, donc ils sont couverts. Ils sont couverts par ça, et c'est la boîte elle-même qui leur paie l'assurance.
Donc c'est la boîte elle-même qui leur paie l'assurance.
Ouais. Donc c'est compris dans les petits avantages, quoi. La boîte leur paie l'assurance pour qu'ils soient irresponsables. En fait, ils sont irresponsables.
Une priorité, l'emploi.
Donc on va essayer de faire un petit calcul, si vous êtes d'accord, pour diviser le salaire de Monsieur Daniel Bernard par le vôtre.
Mm-hmm.
D'accord.
Mm-hmm.
Je vais mettre ma calculatrice. Alors. Donc ça fait comme si il touchait votre salaire pendant 3873 ans.
3873 ans. D'accord, bah oui.
C'est comme si vous touchiez un salaire depuis
l'Antiquité. Depuis l'Antiquité. Ce jour-là, ça, quand on a, tout le monde a appris ça, on s'est senti quand même découragé. Je dois dire que même beaucoup de clients nous disaient que c'était honteux et que le client, lui, savait que c'était un travail assez dur et...
Parce que ce que vous avez ressenti, c'est qu'on respecte pas votre travail quand c'est comme ça?
C'est pas respecter le, je dirais, le petit personnel. On fait tout ce qu'il faut, on fait tout ce qu'il nous, tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous impose, on respecte les consignes données, etc.
Et c'est quoi les consignes?
Il faut fidéliser le client, donc nous déjà en ligne de caisse, Carrefour a sa propre carte de paiement, la carte passe, et parfois en caisse on nous demande de démarcher le client.
C'est-à-dire plus seulement faire quasiment le travail de caissière avec l'enregistrement des tarifs, mais presque faire un travail de commercial, voilà. En invitant à vendre un produit supplémentaire,
voilà.
Finalement.
Voilà, tout à fait, oui.
Et alors vous disiez que vous aviez ressenti un manque de respect, une démotivation. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu plus que ça, est-ce qu'il n'y a pas eu la colère, un désir de se mettre en grève peut-être?
Mais oui, tout ça, ça a circulé dans les esprits, c'est clair. Mais bon, on se dit que arrivé à un certain âge, de toute façon, trouver autre chose ailleurs, c'est pas évident. C'est vrai que là où on est, c'est sécurisant.
Vous êtes rentré sur le marché du travail en quelle année?
Alors, j'ai commencé à travailler en 67.
Et à l'époque, il y avait la même peur de « Ah, si je perds mon boulot, je vais pas la retrouver ailleurs ?»
Non, du tout. Absolument pas. Personnellement, je dois dire que je ne savais même pas à l'époque le chômage, qu'il pouvait y avoir des chômeurs. Je me faisais aucun souci à ce sujet-là. Il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir changer de travail. Donc, je prenais 8 jours de vacances. J'allais là où je voulais, dans telle ou telle région ou telle ville. Et en 8 jours de temps, je trouvais et du travail et un logement. Du travail, il y en avait pour tout le monde, quoi.
Donc, à cette époque-là, si vous, enfin, vous seriez pas resté 9 ans chez Carrefour?
Non, du tout. Non.
Finalement, c'est la peur du chômage, en un sens. C'est la peur du chômage qui fait que on accepte d'avoir un revenu qui est de 839 euros après 9 années d'ancienneté. C'est la peur du chômage qui fait qu'on accepte de pas se mettre en grève quand on apprend que le patron part avec 38 millions. C'est la peur du chômage qui fait qu'il n'y a pas plus de lutte, pas plus de démission, pas plus de...
Oui, le chômage, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Même si le travail ne me convient pas vraiment, je me vois pas le perdre et puis me retrouver au chômage, quoi.
Après avoir pourri la Bretagne il y a 5 ans avec l'Erica et la planète depuis toujours, Total s'apprête à licencier 550 personnes. Mais Total a engrangé 9,5 milliards d'euros de bénéfices en un an que se partageront les actionnaires. Alors la Bretagne, les oiseaux et les employés, ils s'en cognent. Total, vous ne seriez pas en train de nous niquer par hasard?
Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que au cours du XXe siècle, eh bien, les inégalités n'ont pas cessé de réduire, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça. Mais Jean-Luc Porquet le rappelle dans son bouquin, dont je rappelle le titre, que les gros salaires baissent la tête. En effet, tout au cours du XXe siècle, on n'a pas cessé de réduire les inégalités, redistribuer les richesses, réduire les inégalités, c'était le discours dominant. C'était le discours dominant jusqu'il y a 25 ans à peu près, où ça s'est inversé, la tendance s'est inversée, et on a assisté à la destruction des acquis sociaux, des protections de toutes sortes, et c'est ce lent et long travail de sape et de destruction auquel nous assistons actuellement, ben, plus ou moins impuissants. Alors évidemment, cette situation actuelle profite à certains qui s'en sortent très bien, et la preuve, mais pas seulement les gros salaires, il y a des gens à qui cette situation profite tout à fait, qui s'en sortent très bien, mais c'est loin d'être la majorité. La majorité reste en rade, galère, accumule frustration et ressentiment, sans aucune alternative politique, sans perspective d'un changement. Et alors, évidemment, ça fermente, jusqu'à ce que ça pète. Ça pète ou bien, ben, ça pète dans les urnes, 22 avril 2002, ou bien, eh ben, ça pète, comme ça vient de péter, puis ça continue de péter, dans les banlieues. Alors, le système peut-il s'accommoder de 10% de la population vivant dans les zones urbaines sensibles? C'est possible. Le système peut-il s'accommoder de 5 à 6 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté? C'est possible. Le système peut-il s'accommoder de 15 à 20% de Français votant à l'extrême droite? C'est possible. En tout cas, pour les PDG, ce qu'il faut savoir, si on a encore le temps d'évoquer cette question délicate, c'est qu'il y a des petits PDG, des gros PDG. On gagne plus ou moins quand on est PDG quand même. Là aussi, il y a quand même un tout petit peu d'inégalité. Jean-Luc Porquet.
Vous expliquez qu'il y a un mode de calcul de rémunération, c'est-à-dire qu'on situe les PDG dans plusieurs quartiles, c'est-à-dire on divise les PDG en quatre groupes. Il y a le groupe de tête, qui a le premier quart, qui a le meilleur salaire. Il y a le deuxième quart, bon, ça va, c'est encore acceptable. Il y a le troisième quart, vraiment, là, ça devient... C'est limite les chaussettes à repriser soi-même, quoi. Et le quatrième quart des PDG, c'est la soupe populaire, quoi, en fait. Hein, c'est la soupe populaire des PDG. Et donc, tous les ans... Les PDG qui sont dans le troisième et quatrième quart, ils disent, regardez, c'est pas digne d'une entreprise, finalement. Il faut m'augmenter quand même pour qu'on soit digne de ça et qu'on soit dans le premier et le deuxième quart. Donc ça fait que le premier et le deuxième quart, ils augmentent. Donc tous les ans, on a une démultiplication comme ça, un peu une course circulaire.
Oui, parce qu'en fait, il y a des cabinets spécialisés qui passent leur temps à faire des comparatifs entre eux, ce que gagnent les PDG de... Et c'est pour ça qu'ils augmentent, que leur salaire augmente si vite. C'est-à-dire, ils réussissent à convaincre leur conseil d'administration qu'ils font pas partie des nuls et qu'il faut les augmenter et les mettre dans le premier ou deuxième quartile. Alors, comme dans le premier quartile, c'est les Américains qui gagnent 3-4 fois plus qu'eux, donc forcément, le système de rattrapage, il faudrait faire ça pour les salariés français d'ailleurs. Ce serait peut-être un bon système pour que les augmentations des salariés français soient.
Mais ça, c'est plutôt à la baisse du côté des salariés. On calcule où est-ce qu'on peut avoir le coût de main-d'œuvre le moins élevé, quoi.
Oui, bah là, c'est d'ailleurs un phénomène pervers de la mondialisation, c'est que autant la mondialisation, ça fait pression pour faire baisser. On dit toujours, regardez, les ouvriers chinois travaillent pour 10 fois moins que vous, espèce de salarié français goinfre. Mais curieusement, ça pousse à la hausse des salaires des PDG.
De la distribution, quelques exemples, Casino, Schneider, PR à Paris, gagné 0,4.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Je rappelle le titre du bouquin de Jean-Luc Porquet, Que les gros salaires baissent la tête, aux éditions Michalon. À signaler vendredi 18 et samedi 19 novembre, le MRAP et le maire du 2e arrondissement de Paris organisent un colloque sur le thème Zigane, Rome, Gitan, gens du voyage. C'est à la salle Jean Dame, 1725 rue Léopold Bellan. Dans le 2e arrondissement à Paris, ces journées s'ouvrent par l'inauguration de l'exposition Les gens du voyage à 18h le vendredi 18. Et puis, parmi les repères de la Basse J'y suis, des amis de la Basse J'y suis, ce soir la pleine lune à Montpellier, 26 rue Faubourg Figrolles, et bien les amis de la Basse J'y suis s'y retrouveront. Et il y aura Gilles Pinto, qui est membre de Katia TV du Venezuela, et qui sera parmi les amis de la Basse J'y suis. Ce soir donc, Montpellier, la pleine lune à quelle heure? À 20h. Voilà, technique aujourd'hui Alain Arnstein et Jean-Philippe Jeanne, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assistante Pascal Le Pascariello, le répondeur c'est Christophe Humbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com. Pub.